Vous écoutez France Culture, il est 6h45, c'est l'heure des enjeux internationaux avec vous, Julie Gacon, bonjour.
Bonjour Jacques, bonjour à tous.
Au sommaire aujourd'hui, la question palestinienne est-elle toujours la cause arabe centrale?
Oui, la cause arabe centrale, la journaliste Ala Kodmani rappelait récemment dans Libération que c'était l'expression employée depuis des décennies dans les discours officiels arabes, dans des pays dont on peut s'étonner qu'ils aient été aussi longs à réagir au plan que Donald Trump a présenté la semaine dernière, plan dit de paix, mais dont tous les observateurs assez unanimement ont relevé son asymétrie en faveur d'Israël, avec un président américain qui s'octroie le droit d'attribuer à un allié, donc en l'occurrence l'État hébreu, une souveraineté sur un territoire qui n'est pas le sien. D'après ce plan, il existerait bien un État palestinien, mais morcelé par les colonies et amputé de la vallée du Jourdain. Si les pays arabes ont mis du temps à se prononcer officiellement et surtout collectivement sur ce plan, ils ont finalement déclaré leur rejet ferme et unanime. C'était samedi au Caire, lors d'une réunion extraordinaire de la Ligue arabe. Bonjour Jean-Paul Chagnolot.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes professeur émérite des universités et président de l'IREMO, l'Institut de Recherche et d'Études Méditerranée-Moyen-Orient. Ce rejet de la Ligue arabe, Jean-Paul Chagnolot, c'est un rejet d'après vous pur et simple ou c'est un rejet pour la forme? Est-ce que vous avez l'impression que les pays arabes ont vraiment fait corps pour défendre les Palestiniens et Mahmoud Abbas ou vous n'y voyez que des éléments de langage?
Non, je crois que ça va un peu plus loin que des éléments de langage. Bien entendu, il y a de très fortes contradictions, à la fois entre les différents États arabes et puis même à l'intérieur de chacun de ces pays arabes. Mais clairement, c'était pas évident qu'ils parviennent à une telle position, mais ça montre quand même que la question palestinienne reste quelque chose de tout à fait central dans les opinions publiques. Et quand on prend la question palestinienne, il y a différents aspects, ça dépend des pays. Mais il est clair que ce qui soude le tout, c'est le rapport à Jérusalem. On voyait mal un pays comme l'Arabie Saoudite, quelles que soient ses relations avec les États-Unis, dire officiellement qu'il acceptait l'idée qu'on abandonnait pour le monde musulman Jérusalem, par exemple. Et ensuite, si on décline pays par pays, on voit aussi que dans certains pays, certains aspects du plan sont tout à fait inacceptables. Donc, même s'il n'était pas évident qu'il parvienne à cette position, on voit bien tout de même le retour d'une forme de centralité de la question palestinienne, parce que au fond, comme vous l'avez dit dans votre présentation, ce plan Trump va tellement loin qu'il n'est pas acceptable. Vous avez très justement dit que Trump s'octroie le droit de donner un territoire à Israël, un territoire qui évidemment n'est pas le sien, et sur aucune espèce de base juridique, et moins encore sur une base de véritable négociation. Donc c'est en fait une aberration du point de vue du droit international et des relations internationales plus généralement.
Et ce refus donc de unanime collectif de la Ligue arabe de samedi, est-ce que justement c'est une manière de dire à Donald Trump que cet unilatéralisme, cette politique déclaratoire, comme on l'a entendu hier par les invités de l'Esprit public, notamment chez Émilie Aubry, ça n'est pas possible, que ça ne peut pas se faire sans eux, avec pour corollaire, parmi ces pays signataires de ce refus samedi, il y a quand même des pays comme l'Arabie Saoudite ou les Émirats Arabes Unis qui sont censés être les bailleurs de fonds de ce plan puisque Donald Trump compte sur eux pour investir 50 milliards de dollars sur 10 ans dans les territoires palestiniens.
Oui, c'est ça. Ils ont d'ailleurs très clairement dit qu'ils ne collaboreraient pas à la mise en œuvre de ce plan. Ils l'ont dit dans leur communiqué très clairement et donc ça signifie effectivement que cet argent que Trump promet, c'est pas le sien pour une grande partie, ce sera celui des États arabes. Donc là, il se retrouve avec une position unanime et on voit mal justement comment les pays arabes comme l'Arabie Saoudite vont pouvoir financer quoi que ce soit dès lors qu'ils ont effectivement annoncé qu'ils ne le feraient pas. D'ailleurs, il y a eu une conférence il y a quelques mois qui avait été une forme d'échec aussi. On voyait bien les contradictions qui apparaissait. Maintenant, juste un mot sur deux ou trois pays pour préciser les choses, parce que l'Arabie Saoudite, c'est évidemment une situation particulière et une puissance notamment financière. Mais si je prends par exemple le Liban, qui est tout de même un pays bourré de contradictions, on le voit avec les grandes manifestations qui ont lieu en ce moment, eh bien, le Liban, unanimement, a rejeté le plan. Évidemment, le Liban est lié à l'Iran dans la mesure où le Hezbollah joue un rôle majeur là-bas, mais aussi, il y a une question qu'il ne faut pas oublier, c'est que jamais les Libanais, quelle que soit leur sensibilité et leur appartenance communautaire, n'acceptent l'idée que les réfugiés palestiniens qui s'y trouvent, au moins 200 000, eh bien, puissent rester définitivement au Liban et soient en quelque sorte abandonnés au Liban. Donc rien que pour cette raison-là, le ministre des Affaires étrangères libanais a bien clairement dit qu'il n'était pas question d'accepter le plan de Trump. Si on prend la Jordanie, c'est un autre exemple où là, Ce plan pour la Jordanie est une véritable catastrophe parce que par conséquence immédiate, eh bien, ça peut déstabiliser le régime de Hussein, notamment sur un point aussi central qui est les lieux saints, puisqu'ils sont les gardiens des lieux saints et le plan Trump clairement remet en question le statu quo sur les lieux saints. En permettant aux Juifs de pouvoir y aller prier, ça veut dire que ce n'est plus du tout ce qui était jusqu'alors accepté depuis fort longtemps. Donc tout ceci, si on prend pays par pays, on voit bien que malgré tout ce qu'on pouvait penser, ils ne peuvent pas accepter un tel plan.
La Jordanie qui a eu une voix forte lors de ce sommet de la Ligue arabe au Caire, puisque elle s'est dit prête à dénoncer les accords de 94, accords avec l'État hébreu, que l'Égypte a également signé un peu plus tard. En tout cas, l'Égypte et la Jordanie sont des pays qui ont signé des accords avec l'État hébreu, des accords de paix, qui pourraient être mis en cause vraiment là dans les semaines qui viennent.
Ce sont des traités de paix, c'est pas simplement des accords, comme vous le dites très, très justement, ce sont des traités de paix, c'est-à-dire qu'ils ont normalisé. L'Égypte, ça date de 1979, il faut le rappeler, et la Jordanie, c'est 1994. Alors pour l'Égypte, je pense pas qu'il puisse y avoir un risque de remise en question, pour plein de raisons qu'on peut pas évoquer ici. Mais sur la Jordanie, oui, le risque de déstabilisation de la Jordanie est tel que le traité de paix ne sera sans doute pas remis en question, je pense pas qu'on aille jusque-là, mais au moins qu'il y ait la menace de cette remise en question, parce que le régime jordanien est tout de même très très fragile, malgré son apparente stabilité. Par conséquent, il n'a pas du tout intérêt à ce qu'une telle soit remis en question, et que si Trump installe son plan, ce qui est à mon avis de façon impossible, eh bien le régime jordanien pourrait se retrouver dans une situation extrêmement délicate. Donc voilà, on est dans ces espèces d'équilibre. Il faut bien comprendre que ce plan Trump déstabilise profondément la question israélo-palestinienne et tout ce qu'il y a autour, et par conséquent les pays comme la Jordanie.
La Jordanie, oui, qui voit d'ailleurs un président américain vouloir remettre à Israël la souveraineté sur la vallée du Jourdain, cette zone stratégique à la frontière orientale de la Cisjordanie, et qui jouxte la Jordanie. La Jordanie a mis fin cet automne aux prêts de deux enclaves à Israël que des kibboutzniks cultivaient depuis des années. Donc on voit des rapports de force commencer à changer doucement, ou c'est l'écume?
Je crois que c'est plus que l'écume, ça peut être des problèmes de fond. Parce qu'en fait, si on regarde bien le plan Trump, il y a toute une série d'éléments. Quand je dis déstabilisation, c'est au sens très fort du terme. Par exemple, il y a un point dont on n'a pas encore parlé, et dont on a parlé très peu d'ailleurs dans la presse, même si ça a été évoqué évidemment, c'est le fait que le plan Trump prévoit de transférer une partie du territoire israélien, ce qu'on appelle le triangle, dans la région d'Oum el-Fahem, par exemple, vers un État palestinien qui reste un État absolument en creux, qui n'est pas véritablement un État. Mais ça veut dire qu'on prendrait près de 250 000 Arabes israéliens, citoyens d'Israël aujourd'hui, et on les mettrait dans le territoire d'un État palestinien, qui de toute façon est une coquille tout à fait vide malgré tout. Donc c'est déjà un élément déstabilisant considérable, et il y a eu des manifestations en Israël là-dessus. Et puis si on continue, juste un deuxième point, c'est que s'il y avait des annexions de la vallée de Jourdain dont vous venez de parler, ça veut dire qu'il y a près environ 300 000 Palestiniens qui seraient donc sous la souveraineté israélienne. Et évidemment, ces Palestiniens n'auraient aucun droit politique. C'est ce que le gouvernement israélien a cessé de répéter. Il n'est pas question de donner de droits politiques aux Palestiniens dans les zones annexées. Donc, vous auriez plusieurs sources de déstabilisation profonde. Et donc, une déstabilisation de la situation et donc de la région. Donc, vous voyez, si on regarde dans le détail, ce plan est extrêmement préoccupant. C'est le moins qu'on puisse dire pour la stabilité. Et donc, c'est normal qu'au fond, il y ait cette levée de bouclier dans le monde arabe, mais aussi en Israël. Alors évidemment, au premier rang sont les Palestiniens, ça va de soi.
Jean-Paul Chagnolot, on parle beaucoup des représentations diplomatiques et des gouvernements de ces pays arabes, dont certains se sont d'abord montrés, ont témoigné d'un silence un peu gêné, puisque l'hostilité presque commune de ces pays avec l'Iran a rebattu les cartes des relations de ces pays avec Israël et avec les États-Unis. On a moins parlé des peuples de ces pays qui, quand même, se sont très peu manifestés, se sont très peu soulevés après la présentation de ce plan, et notamment dans les territoires palestiniens. Il n'y a eu aucune réaction, à ton impression, à lire la presse sur place. Comment vous expliquez ce silence? Est-ce que peut-être les Palestiniens, alors la division de l'autorité palestinienne du Fatah et du Hamas entre Gaza et Cisjordanie, bien sûr, mais peut-être ces 50 milliards d'euros de dollars d'investissement sur 10 ans, peut-être étaient-ils attendus?
Non, ça je crois que personne n'y croit. Et moins encore après le refus qu'on vient d'évoquer. Non, mais je pense qu'il y a dans les territoires palestiniens, je pense surtout à la Cisjordanie, pour Gaza, la configuration est différente, mais il y a une énorme lassitude, une grande fatigue. Enfin, on s'est battu depuis tant d'années avec si peu de résultats. Donc, notamment dans la jeunesse, il y a une espèce de volonté tout à fait compréhensible d'essayer de trouver sur le plan individuel un avenir meilleur, sachant que sur le plan politique, les choses sont bouclées et bouchées, d'autant plus que le gouvernement d'Abbas, autorité palestinienne, est extrêmement discrédité. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, il y avait ces derniers temps la mise en place d'élections. Je ne sais pas si elles auront lieu parce que c'est très compliqué, mais c'est fondamental que l'autorité palestinienne se ressource. Mais ce silence dans la rue ne signifie en aucune façon l'acceptation. Il y a une espèce d'haussement d'épaule désabusé, mais fondamentalement, il refuse ce plan Trump, qui malgré tout, il faut le dire aussi, est déjà une réalité. L'annexion de la vallée du Jourdain est une forme de réalité. Donc,
Jean-Paul Chagnolot, pardon. On arrive à la fin de cette émission. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes président de l'IREMO et je vous souhaite une bonne journée.